BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. On se retrouve comme chaque semaine avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, pour évoquer l'actu des marques et des agences, débattre des grands enjeux du monde de la pub et de la communication et partir à la rencontre des DIRCOM qui comptent. Aujourd'hui, on sera avec Olivier Sebag, c'est le directeur général de Dentsu Aegis Network en France. Il est en charge des activités de création. Il a été nommé le mois dernier. Il nous expliquera quelle est sa feuille de route. Notre débat du jour, il sera consacré aux pubs comparative. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour les marques? Décryptage avec Pierre Gomis, directeur général de Kantar Millward Brand France, et Franck Tapiro, c'est le président d'Hémisphère Droit. Et puis en fin d'émission, rencontre avec François Bitouzet, directeur communication et marque de Voyage SNCF.com. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, je suis ravie de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne. Alors cette semaine, Marie, ce que vous avez repéré d'abord, c'est cette campagne de Saint-Gobain qui fait en fait son retour en télé, c'est ça?
Et oui, après 30 ans d'absence en télé, Saint-Gobain revient avec une nouvelle publicité. Alors une façon pour la marque d'accentuer sa visibilité. La campagne lancée le week-end dernier joue sur les différentes ambiances entre plusieurs pièces d'un même espace. L'idée étant de mettre en avant l'efficacité des matériaux produits par le groupe de construction.
Dans la vie, il y a ceux qui ont besoin de s'exprimer et ceux qui préfèrent intérioriser. Il y a ceux qui aiment les coups de chaud et ceux qui ont besoin de garder les idées fraîches. Quand certains dorment sur leurs deux oreilles, d'autres... Certains ont besoin de décompresser, alors que d'autres doivent rester concentrés. Et quand certains prennent leur première inspiration, d'autres respirent déjà le bonheur. C'est en inventant des matériaux qui changent la vie que Saint-Gobain nous aide à mieux vivre ensemble.
Et la publicité est signée par Publicis.
Un peu de lecture aussi, tiens, une fois n'est pas coutume cette semaine.
Avec un livre signé par la journaliste Anne Magnin. Ça s'appelle « Sur les pavés, la pub ». Alors, c'est rempli de photos du monde entier, des meilleures campagnes, de ce qu'on appelle la marketing guérilla. Cette façon dont les marques peuvent s'emparer de la rue et du mobilier urbain pour en faire des vecteurs de communication. L'idée, bien sûr, ensuite, c'est de faire le buzz sur Internet. Alors, on y voit par exemple dans ce livre un passage piéton transformé en cornet de frites McDo, un tapis à bagages maquillé en roulette de casino, ou encore des objets publicitaires absolument géants. Énormément d'exemples dans ce livre publié aux éditions Webec.
Et puis l'arrivée d'un annonceur un petit peu particulier sur le marché de la pub, puisqu'il s'agit de l'Église.
Oui, les évêques lancent une grande campagne de communication nationale pour sensibiliser à la collecte du denier, la principale source de revenus de l'Église. 200 000 euros ont été investis dans cette campagne. Elle sera dévoilée dès Noël. Affiches publicitaires, spots radio et même messages sur les réseaux sociaux. L'objectif à partir de cette publicité, c'est de partir à la conquête des 30-50 ans.
Et bien comme quoi, Frédéric, tout le monde peut être annonceur finalement.
Mais oui, absolument. Et c'est d'ailleurs... plutôt une bonne nouvelle pour nos métiers, pour la pub. Il n'y a aucune raison de s'arrêter.
Merci beaucoup Marie, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Olivier Sebag, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le tout nouveau directeur général Dentsu Aegis Network France, en charge des activités de création, parce que je dis tout nouveau, vous avez été nommé il y a à peu près un mois, c'est ça?
C'est cela même.
Alors, quelle est votre feuille de route, justement, à ce nouveau poste?
Écoutez, ma feuille de route, c'est de réussir quelque chose qui n'a pas vraiment été réussi jusqu'à maintenant, à savoir instaurer, installer, sédimenter une culture créative dans un groupe qui a un ADN média. Et donc, pour ça, j'ai la chance d'avoir, on va dire, un certain nombre d'assets au sein de Dentsu Aegis Network, à savoir trois agences créatives aujourd'hui, à savoir Isobar, McGarry Bowen et Jairo, qui sont donc trois entités avec des cultures assez différentes, mais dans lesquelles il y a déjà des créatifs, des planeurs stratégiques, enfin tout ce qu'on trouve dans une agence, on va dire, de communication au sens classique du terme. Donc on part pas de zéro, ce ne sont pas des départements internes aux agences médias, ce sont vraiment des agences autonomes présentes sur le marché avec leurs clients et leurs process.
Alors en préparant cette émission avec Frédéric, sans se concerter, on a relevé tous les deux la même phrase dans le communiqué, c'est « Vous allez mettre en application l'écriture des nouvelles grammaires créatives ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une excellente question, je remercie de l'avoir posée. Enfin l'idée c'est juste de dire que globalement, bon moi ça fait une vingtaine d'années donc j'évolue dans des structures, enfin d'agences de création, et c'est vrai que très souvent on va dire, on est assez fort sur les grandes idées, les grands assets de campagne, les films, les affiches et toutes ces choses-là, mais qu'aujourd'hui avec la fragmentation des médias, avec la démultiplication des contenus et l'orchestration de ces contenus, il y a un enjeu finalement à avoir une approche qui est très holistique, très ciselée en fait de l'ensemble de ces contenus et surtout de la façon de les orchestrer. Je sais pas si on appelle ça des nouvelles grammaires créatives, en tout cas c'est l'art du storytelling dans un monde un petit peu plus fragmenté et dans lequel on a toujours cet enjeu à raconter des histoires qui engagent un peu les gens, et c'est aussi cette capacité à être dans l'excellence quel que soit l'asset et quel que soit finalement le parcours qu'on va créer justement pour amener les clients d'une marque petit à petit à l'apprécier davantage ou à acheter davantage de ses produits.
Alors c'est vrai qu'à la base Dentsu c'était un groupe média, Isobar c'était une agence, enfin c'est toujours d'ailleurs, mais à très très forte connotation digitale, Jairo aussi, et vous disiez que la difficulté qu'avait eu cet ensemble jusqu'à présent, finalement, c'était à être créatif. Qu'est-ce qui va faire que maintenant ça va marcher ?
Alors, d'abord, pour commencer, Dentsu Aegis n'est pas un groupe juste média, puisque par essence, Dentsu est d'abord le plus gros groupe de contenu au Japon, qui est environ 75% de part de marché. Alors, en France, mais l'ADN du groupe, en tout cas, n'est pas uniquement média. C'est justement l'alliage du contenu et du média. Et c'est ce qui définit l'ADN, effectivement, de Dentsu Aegis aujourd'hui. Après, par rapport à votre question, qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est que finalement, on va pas se mentir, on est quand même dans un marché où il y a une concurrence très très forte, et pas qu'au niveau d'ailleurs des acteurs historiques de la communication, puisque je crois que vous avez fait quelques interviews sur le sujet, mais bon, les consultancies entre autres, mais les boîtes de prod, les producteurs de contenu à bas coût, enfin bref, on est quand même attaqué de toutes parts. Donc l'enjeu, c'est surtout un enjeu d'organisation avant toute chose, et de répartition des forces et de process. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on va dire, un héritage dans les agences de communication. En fait, l'héritage, c'est l'inertie au changement. Donc globalement, moins on a d'héritage et plus on est, on va dire, jeune, plus on a une capacité à se transformer rapidement et à comprendre ce qui se passe. C'est le cas.
Vous voulez dire, vous voulez vous mettre un peu en mode start-up ?
Alors, je dirais, enfin, le mode start-up, on entend tellement ça que ça finit par être un petit peu agaçant. Je sais pas ce que veut dire le mode start-up. Si ça veut dire être agile et se transformer rapidement, on va dire oui. Si c'est dire on va reconstituer des boîtes from scratch avec trois individus talentueux à aller lever des fonds, c'est non. Voilà. Mais non, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, je crois que globalement, quels que soient d'ailleurs les acteurs sur le marché, que ce soit les Accenture, Deloitte, ou que ce soit les holdings publicitaires, ou encore d'autres modèles économiques aujourd'hui, tout le monde fait le même constat. C'est-à-dire qu'on est à l'ère de la convergence entre la data, entre le média et entre le contenu, évidemment. Tout le monde fait le même constat et tout le monde se transforme à sa manière. Donc on va dire que chez Publicis.
Et vous, votre avantage stratégique, il est quoi ? Vous êtes plus jeune à Publicis ?
J'y viens. L'avantage stratégique, il est assez simple. Le premier, c'est que quand on évolue dans un groupe avec un ADN média fort, en fait, qui est au cœur du groupe, c'est la data. La data est au cœur des agences médias depuis toujours, puisque par définition, c'est l'art du ciblage, de la connaissance client et de savoir à qui on s'adresse, comment et de quelle manière. Donc déjà, on a un point de départ qui est le cœur du sujet aujourd'hui, puisqu'on vit dans un monde où les modèles intrusifs, de toute façon, appartiennent au passé, qu'il faut réinventer des modèles qui sont plus natifs et capables d'impliquer, d'engager des consommateurs. Donc on est déjà à la source sur, je dirais, la nouvelle quête aujourd'hui qu'on peut avoir, que ce soit d'ailleurs tant du côté des agences que du côté des clients qui ont leur propre data. Nous, on en génère d'autres au travers des dispositifs médias ou au travers des partenariats qu'on peut avoir avec certaines GAFA comme Facebook, évidemment, qui est dans ce domaine est pas trop mauvais. Donc ça, c'est l'avantage compétitif à la base. Maintenant, c'est pas ce qui fait qu'on est supérieur, ce qui va faire qu'on va en tout cas essayer supérieur. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas essayer d'être plutôt dans la course. C'est justement l'enjeu de taille et surtout l'enjeu d'interfaçage entre toutes ces expertises. Parce que finalement, ce qui fait la différence, c'est pas tant l'accumulation des expertises. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de holdings qui font des tonnes et des tonnes d'acquisitions et qui détruisent de la valeur. Le sujet, c'est pas tellement d'empiler les compétences, c'est de voir comment elles s'interfacent les unes avec les autres. Et surtout, elles se conçoivent en fonction d'une compréhension de ce que les clients attendent. On est quand même à l'ère aujourd'hui où la plupart des grands groupes de communication font la liste des expertises qu'ils ont, les mettent en avant, décrivent ce qu'ils savent faire. Mais la question, c'est est-ce que ce que je suis en train de raconter est quelque chose qui résonne avec les besoins qu'on a en face. Et souvent, il y a un petit décalage, qui est d'ailleurs étonnant, puisqu'en fait, c'est l'essence même de nos métiers que de comprendre à qui on s'adresse.
Ça devrait être la base, a priori.
Ça devrait être la base. Mais bon, comme c'est le cas aujourd'hui, on est dans une phase un peu d'adolescence quand même de nos métiers. Donc là, l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement d'abord de comprendre un peu ce qui est en train de se jouer, essayer de comprendre qui on est aussi, parce que forcément, moi, je travaille. Enfin, j'ai commencé il y a 20 ans, c'était quelque peu différent. Et Frédéric, j'imagine que c'est un peu valable pour vous aussi.
Prenez ça au passage.
Le sujet, c'est à la fois de comprendre un petit peu ces changements et qui, en plus, ne sont pas. Ça se produit pas et puis ça s'arrête pas. C'est constant et c'est permanent. Donc on est, comme dirait Thierry Jadot, qui emploie souvent cette expression, il faut concevoir l'avion en même temps qu'il vole, quoi. Donc il faut adresser le travail au quotidien et essayer de comprendre ce que nos clients attendent, tout en préparant aussi le futur et surtout la façon dont les agences vont évoluer. D'ailleurs, est-ce que ça doit encore s'appeler des agences? Finalement, tous les termes qui nous ramènent finalement à des modèles qui sont des modèles, on va dire, obsolètes aujourd'hui, sont ceux qui nous empêchent de nous transformer. Donc la vraie question, c'est quoi le modèle d'après? Et comme c'est le cas avec un Uber qui va aider à transformer un G7, parce qu'à un moment donné, être un petit peu perturbé, ça oblige à se transformer.
Mais
quelque part, je pense qu'on peut dire merci à tout le monde, à Accenture et aux autres d'ailleurs, de finalement nous inviter urgemment à nous poser des questions.
Merci beaucoup Olivier Sebag. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Dentsu Aegis Network France.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
C'est l'heure de notre billet d'humeur et Frédéric, retour de notre chroniqueur masqué.
De notre chroniqueur masqué, absolument, Joe, qui aujourd'hui va nous parler d'une affiche qui tousse.
Oui, alors c'est une affiche un peu particulière que j'ai vue dans qui a été envoyée à un festival de publicité et qui a la particularité, quand quelqu'un passe devant et qu'il est en train de fumer une cigarette, de se mettre à tousser. Il y a un personnage sur l'affiche et il se met à tousser. Il y a des capteurs dedans et ça déclenche automatiquement une réaction.
D'accord. Et le problème, c'est que...
Alors le problème, c'est que ça a été présenté comme quelque chose de très innovant avec cette histoire de capteurs et tout, comme quelque chose de nouveau, de jamais fait, alors que ça avait été fait il y a 5 ans en Arabie Saoudite, de la même manière, avec quand les gens passaient devant le poster, ils se mettaient à tousser et c'était aussi contre le tabagisme passif.
Bon, alors une autre campagne, cette fois ça n'a rien à voir, c'est pour des aspirateurs qui rendent le sol à ce point propre qu'on peut manger dessus, c'est ça, mais là aussi déjà fait.
Oui, alors voilà, ce qui s'est passé là, c'est que c'est en Belgique, ils ont organisé une opération où ils ont invité des gens au restaurant, et c'était un restaurant un petit peu particulier où il y avait un grand chef qui leur a fait à manger, sauf qu'ils devaient manger par terre, à même le sol, parce qu'il avait été nettoyé par un aspirateur antibactérien très puissant. Et ça avait déjà été fait il y a 3 ans, et ça avait été fait au Canada, et c'était encore pire parce que c'était quelqu'un qui avait mangé par terre sur un quai dans le métro. Mais ça avait été nettoyé de la même manière, et c'était le même genre de performance puisqu'il mangeait un repas à même le quai.
Comme quoi, Frédéric, on n'a pas fini de voir des pubs qui se recopient les unes les autres à travers le monde.
Et surtout de manger par terre.
Ouais, je suis pas prête, moi, encore, psychologiquement. Il va falloir un peu de temps. Merci, Joe Lafond, pour vous retrouver, évidemment, sur votre blog et dans les colonnes de CB News.
BFM Business, Hebdo.com, le face-à-face.
Le face-à-face du jour autour des publicités comparatives, bonne ou mauvaise idée pour les marques. On en parle avec Franck Tapiro, président de l'agence Hémisphère Droit. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Pierre Gomis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Kantar Millward Brown France. Alors, ce qui nous a donné l'idée avec Frédéric de ce débat, c'est que Samsung avait dévoilé cette semaine un nouveau film dans lequel il se moque de l'iPhone, dont la technologie est, selon lui, toujours en retard par rapport à ce qu'il propose déjà. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on le fait. Mais Pierre Gomis, quel est l'avantage pour une marque de faire de la pub comparative? Qu'est-ce que ça lui apporte?
Eh ben, en fait, c'est plutôt un avantage pour un challenger que pour un leader, déjà. Ce qu'on déconseillerait en toute première priorité, c'est à Apple de faire une publicité comparative avec Samsung. Donc, en fait, ce que ça permet, la publicité comparative, c'est de briser des schémas qui sont implicitement liés dans l'esprit des consommateurs. Et donc, en fait, implicitement, on se dit que Apple égale innovation, égale je fixe les tendances du marché. Et ce qu'essaye de faire Samsung, qui est challenger, justement, c'est de briser cette association automatique en refaisant revenir le consommateur à un raisonnement beaucoup plus rationnel, donc de l'ordre de ce qu'on appelle le système 2 maintenant, donc qui est un système réfléchi. Et donc du coup, en fait, il s'attaque aussi au statut iconique de la marque Apple, également, puisque la publicité, effectivement, montre un fan d'Apple. Et donc du coup, effectivement, même si les fans d'Apple reconnaissent que finalement, elle n'est plus à la pointe de l'innovation, effectivement, le pari de Samsung peut être gagné.
Franck Tapiro, c'est vrai, ça faut être challenger, faut pas dominer le marché.
Ah ben non, un leader ne peut pas se comparer quiconque. C'est vrai pour les marques, c'est vrai pour les hommes politiques. On leur dit à chaque fois truc de se positionner par rapport à vos adversaires. Dites qui vous êtes et ce que vous faites. Et une marque leader en général doit être toujours en avance. C'est elle qui doit se challenger en permanence. Donc elle peut pas se comparer aux autres. En revanche, pour un challenger, c'est une occasion efficace d'abord pour se faire connaître, il y a un problème de notoriété. Quand on se compare à un gros et qu'on est tout petit, ben finalement, on parle un peu de vous. Surtout quand ça embête le gros. Parce que quand ça embête le gros, quand vous êtes un caillou dans sa chaussure, le moindre mouvement du gros fait un énorme mouvement pour vous. Mais en France, vous savez, le problème qu'on a, c'est que la pub comparative, c'est vraiment quelque chose d'anglo-saxon. Les Asiatiques s'y mettent aussi. En France, c'est mal. En France, on a un petit peu peur.
Pourquoi, et
on a
tellement... Pourquoi ça marche pas, alors?
Mais parce que la loi est énorme. Pour faire une pub comparative, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Allô, oui, bonjour, je m'appelle, par exemple, Samsung, j'appelle Apple. Je suis obligé d'appeler Apple en amont.
Ah bon, on est obligé?
On est obligé de les appeler. Alors voilà, je prépare un courrier recommandé. Moi, je le fais au téléphone pour respecter le mode audiovisuel de l'émission.
Vous voyez
une lettre recommandée, on va dire, voilà, nous préparons une pub comparative. Ensuite, je dois dire sur quoi, quel sujet, pourquoi, parce que ça doit être rationnel, sur un fait marquant et un fait surtout qui peut se contrôler de façon quasi scientifique.
C'est pour ça qu'on voit quasiment que des comparateurs de prix.
Des comparateurs de prix, parce que le prix, bon, moi, quand il bouge, on peut dire qu'il y a une lettre qui est tombée, il y a un chiffre qui est tombé, et il peut changer dans la nuit, mais en général, un prix est assez fixe par rapport à l'autre et on peut le comparer directement, bien qu'ils réussissent maintenant à les modifier en permanence, surtout avec le digital. Donc, il faut que ce soit tangible, quelque chose de tangible qui puisse se comparer. Donc, quand vous appelez une marque, vous leur dites, attention,
j'arrive.
Vous leur dites, sur quel média, quel support, quel est votre investissement média, pour que l'autre puisse se préparer, anticiper, préparer sa réponse à montant égal. C'est, il faut que vraiment que ce soit totalement corrélé à vos investissements publicitaires, etc., etc. Quand on voit la somme de toutes ces choses, j'appelle ça le cumul de mandales, on n'a pas envie d'y aller. On peut pas y aller. Alors moi, je préfère faire de la pub compétitive. La pub compétitive, c'est induire quelque part une forme de comparaison sans jamais nommer son adversaire. Par exemple, on vient de lancer le premier moteur de recherche sans cookies et totalement transparent qui respecte la vie privée, qui s'appelle Quant. Et on en est fiers parce que c'est français, face à la plus grande marque du monde qui s'appelle, je ne veux pas la citer, qui commence par un G et qui finit par Google. On ne le cite pas, mais on dit en fait ce qu'on fait, et ce qu'on fait est tellement l'antithèse, l'inverse de ce que fait G et Google,
que c'est induit en fait.
Que ça induit la comparaison, c'est ce que j'appelle la pub compétitive.
Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Gomis, sur le fait qu'un leader ne peut pas le faire, c'est vrai qu'on avait vu, McDo l'avait fait en France
avec
face à Burger King, et ça s'était clairement retourné contre lui.
Ah, complètement. Oui, effectivement, puisque du coup, Burger avait saisi l'occasion rêvée de montrer la suite du film de McDonald's, effectivement, où on voyait le couple, certes prendre un café au McDonald's, dans un McDrive, mais pour aller faire les 253 km restants et aller manger le Whopper qui faisait vraiment envie. Donc effectivement, on ne tend pas la perche ainsi quand on est un leader.
Frédéric.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, j'ai envie de dire, psychologique, qui est que en France, peut-être que c'est moins bien, au-delà des questions de réglementation dont parlait Franck, on pense que c'est moins bien d'être agressif comme ça, même si on est le challenger.
Effectivement, ça, c'est l'un des risques des publicités comparatives, c'est d'apparaître comme une marque agressive. De la même manière, au lieu de préempter son propre territoire, on va essayer de casser le territoire de l'autre. Et finalement, c'est jamais bien vu de vouloir démonter quelqu'un plutôt que d'affirmer ses propres forces.
Franck, il y a un frein psychologique en fait.
Il y a un frein psychologique parce qu'on prend ça au premier degré de façon très rationnelle. Alors que d'un point de vue créatif et émotionnel, c'est une opportunité fabuleuse pour les créatifs de faire dans l'humour. discours. On peut très bien critiquer, railler, on adore ça. On taquine les hommes politiques à longueur de journée. On fait les guignols de l'info. On a le théâtre des deux ânes qui fait en permanence de la raillerie contre les politiques. On a Cantou le matin, on a Laurent Gérard. Et la pub ne peut pas le faire. Encore une fois, se comparer avec humour est peut-être quelque chose qui passerait beaucoup mieux dans l'état d'esprit français qui est le nôtre, qui permettrait en plus de rester, entre guillemets, pas grave, et de pouvoir même se comparer sur des choses totalement invérifiables. Et plus c'est énorme, plus c'est efficace. Donc je pense que plutôt que de comparer des prix, on devrait dire, comme certains cafés d'ailleurs qui se sont lancés il y a quelques années, c'est parce que la langue française permet des libertés énormes. Moi, je peux vous dire, je suis sans doute le meilleur publicitaire au monde. Eh bien, si je l'annonce, j'ai le droit. Pourquoi ? Parce que le mot « sans doute » en français induit une forme de présupposé qui veut dire que ça ne veut pas dire « je suis le meilleur publicitaire au monde », même si vous le savez, je le suis, bien entendu. Mais la langue française nous permet de le faire. Les marques pourraient très bien faire ce genre de choses. D'accord. Utiliser la langue française, utiliser la créativité qui est quand même dans nos gènes. Hein, plutôt que de se cacher derrière une loi, il faudrait plutôt s'appuyer dessus, la contourner. Et peut-être qu'avec un peu d'humour, nous on l'a fait il y a quelques années à l'époque avec Virgin Cola, quand on a lancé le fameux Virgin Cola, on a attaqué Orangina en disant qu'il y avait 50% de plus de pulpe dans notre Virgin Pulp qu'Orangina. C'était une blague, mais ils l'ont pris au premier degré. Ils nous ont attaqué, manque de bol. Les experts ont estimé qu'il y avait beaucoup plus de pubs dans Virgin Pub que dans Orangina. Et on a gagné, on a fait de la pub, et c'est eux qui ont communiqué pour nous. Ouais. Donc on était comme ça, Orangina était énorme, ils ont perdu chez eux à Aix, en plus c'était le tribunal de la maison mère.
Ça marche sur les ventes? Quand on est le numéro 2 et qu'on attaque le numéro 1, en effet, il y a une réaction du consommateur direct au-delà du rire.
Parce que ça va en contre-intuition, ça crée un impact émotionnel sur les gens en disant mais on nous aurait menti. Je vais au moins tester, je vais au moins essayer. Et le fait qu'un annonceur qui est totalement addict à une marque se mette à essayer le challenger, c'est déjà une victoire. Et après, il y a des grands cas quand même incroyables. Coca-Cola et Pepsi aux États-Unis. Ouais. Pepsi a inventé le Pepsi Challenge aux États-Unis. C'est une forme de publicité comparative réelle en faisant un blind test. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bandé les yeux des consommateurs. Il y avait deux verres, un verre à droite, un verre à gauche. Je bois le verre de gauche, je bois le verre de droite. 75% des gens préfèrent le verre de droite pensant que c'était du Coca. Manque de bol, c'était du Pepsi. Et Pepsi communiquait le goût préféré des Américains. Mais il y avait une preuve. Une preuve, alors avec du blind test. Coca-Cola a eu l'erreur, a commis l'erreur de vouloir lutter contre cette attaque de Challenger. Et il crée en 84 le New Coke qui a failli tuer la marque Coca-Cola. C'est obligé de faire un rétro-pédalage.
Enfin, on vend toujours plus de Coca que de Pepsi aux États-Unis.
Depuis ils ont compris qu'en fait, ce que préféraient les Américains, c'était le goût du Coca-Cola. Donc ils ont fait le même goût du Coca pour le rouge, le même goût du Coca pour le light, le même goût du Coca pour le zéro, mais avec 0% de sucre ou 1%.
Merci beaucoup Franck Tapiro, président de l'agence Hémisphère Droit, et Pierre Gomi, directeur général de Kantar Millward Brown France.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir notre dircom du jour, François Bitouzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la communication et des marques de voyagesncf.com. Vous êtes face à un gros défi puisque voyagesncf.com, c'est bientôt fini. Ça va être, comment ça peut s'appeler déjà? Alors, oui.sncf, c'est ça?
Alors, oui, SNCF.
D'accord.
Effectivement, en décembre, donc voyagesncf.com, que vous connaissez bien depuis 2000, va se transformer, va changer de dimension pour devenir oui, SNCF.
Oui, ça va avec Ouigo, Ouibus, Inouï, enfin, tout le changement stratégique.
Et en fait, le oui, c'est une nouvelle posture de notre marque. C'est un changement de proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est depuis un certain nombre d'années, on a beaucoup investi dans l'innovation, que ce soit au niveau de l'expérience client, des interfaces, des nouveaux produits. Et là, on veut marquer le pas, franchir une nouvelle étape avec Oui SNCF. Au cœur de Oui SNCF, notre ambition, c'est une nouvelle expérience plus relationnelle pour nos clients. Alors, pour construire ça, on a trois preuves qu'on met en avant. La première, c'est par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, on va offrir plus de clarté sur les offres à nos clients.
D'accord.
Vous savez, depuis 15 ans, évidemment, l'offre de mobilité en France, elle a explosé. Il y a toujours le TGV, surtout depuis deux ans, avec des low-cost grande vitesse, avec Ouigo qui arrive dans toute la France, avec le bus. Bon, comment est-ce qu'on aide nos clients à s'y retrouver? Parce que c'est pas toujours évident. Et surtout, à trouver les meilleurs prix. On a une deuxième preuve qui est autour de tout ce qui est la personnalisation dans l'accompagnement. D'accord. Parce que c'est vrai que on est en 2018, fin 2017. Nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est quoi ? C'est, eh bien, si je suis un senior, il n'y a pas de raison qu'on me fasse les mêmes propositions que si je suis un étudiant. Si je suis quelqu'un qui utilise le service 3 fois par semaine, évidemment, j'ai droit à quelque chose de différent en termes d'ergonomie, de présentation et d'adhérence à mes besoins.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment est-ce que vous allez accompagner tous ces millions de Français qui avaient leurs habitudes sur Voyage SNCF ? Comment vous allez leur dire, ben non, maintenant, on a changé ?
Alors, c'est un peu, vous savez, dans l'entreprise, des fois, il y a la conduite du changement en interne. Ouais. Et nous, on s'est lancé dans un programme de conduite du changement vers l'externe. Parce que c'est une marque très patrimoniale, il faut qu'on amène nos clients.
C'est des années de culture.
Exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est plusieurs choses. Ben, d'abord, on va utiliser tous nos canaux à nous. On a à peu près 14 millions de visiteurs uniques qui viennent nous voir par mois. Donc, c'est colossal. Et finalement, on est un média en nous-mêmes. Donc, petit à petit, on raconte cette nouvelle histoire. On les prévient de façon à ce que cette bascule, ce soit une bonne nouvelle et pas une grosse surprise. Mm-hmm. Et puis, avec eux, on a mis en place un dispositif qu'on appelle le WeWork.
Qu'est-ce que c'est ça ?
Le WeWork, c'est un espace éphémère qu'on a ouvert à Paris, 4 rue du Zès. L'idée, c'est de dire à nos clients, on a toujours co-construit avec vous. Et ce lieu est dédié à la co-construction.
Donc, je peux venir vous dire la façon dont je vois les choses.
Exactement. En fait, pendant 8 semaines, dans ce lieu, il y a à peu près 500 mètres carrés, il y a des équipes de développeurs. Donc, c'est ceux qui codent, qui inventent ce que va être WeSNCF demain. Vous allez pouvoir les rencontrer. On va pouvoir vous montrer en exclusivité toutes les innovations, par exemple l'alerte petit prix, le portail des régions, notre façon de travailler avec Google Home pour le conversationnel.
D'accord.
Et derrière, vous allez donner votre avis, on va faire des torture tests, et nous, ça va nous aider derrière à améliorer tout ça.
Merci beaucoup François Bitouzet. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des marques de voyage SNCF.com. Merci aussi à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.